Moi, le nom, ça me dit quelque chose, mais sinon, l'histoire, je connais pas du tout.
C'était un disciple, je crois. Enfin, pas un ami, mais quelqu'un qui est là, qui comme une entreprise de gens avec un chef.
Enfin, Jésus, surtout, il a invité à venir. Ils étaient juste amis.
C'est le traître qui est à la table.
L'homme qui a trahi le Christ, il l'a dénoncé en lui embrassant la joue pour l'argent.
Il a dit aux Romains que c'était un chrétien et qu'il voulait imposer le christianisme. Puis ça n'a pas plu aux Romains. Et ben donc, les Romains, ils l'ont mis sur une croix.
Et après, il est mort et il s'est transformé en Dieu.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous entamons une série d'émissions spéciales consacrées aux religions dans Barbatruc. Il y aura plusieurs épisodes disséminés au fil de l'année, car s'il est un sujet où l'ignorance provoque de la peur, de l'intolérance, voire de la haine, c'est bien celui-ci. Connaître les religions, c'est faire un pas immense vers le respect. Ce premier épisode est consacré au christianisme, la Bible expliquée aux enfants. Et comme il serait un peu vaste de se pencher sur toute la Bible, nous commençons par un personnage emblématique. Il s'appelle Judas. Son nom est devenu synonyme de trahison. Son histoire fascine. Judas est celui qui a trahi Jésus, qui l'a livré, qui l'a conduit à la mort. Mais sans lui, pas de crucifixion, autrement dit, pas de religion chrétienne. Personnage indispensable, il a trahi un ami. Voilà qui a du sens à tous les âges et pour les enfants en particulier. Judas aide à parler d'amitié, de confiance, de trahison et de pardon. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Deux invités avec moi en studio, Anne Soupa et Didier Decoing. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Dorothée.
Anne Soupa, vous êtes théologienne et écrivaine. Vous avez publié il y a 2 ans « Judas, le coupable idéal » chez Albin Michel. Et plus récemment, toujours chez Albin Michel, « Pour l'amour de Dieu ». On a beaucoup entendu parler de vous au printemps dernier, Anne Soupa, parce que vous avez annoncé votre candidature pour remplacer le cardinal Barbarin. Ça n'est pas vous qui avez été nommé archevêque de Lyon, je crois, mais vous vous en doutiez un peu, hein.
Je n'attendais pas d'être nommé archevêque de Lyon, mais je crois que ma candidature a fait suffisamment de bruit pour que l'on sache désormais que une femme peut dire « et pourquoi pas moi ?»
Et pourquoi pas vous ? Vous êtes cofondatrice du comité de la JUP qui promeut la place des femmes dans l'Église catholique. Didier Decoing, vous êtes écrivain, président de l'Académie Goncourt et passionné par la Bible. Vous êtes l'auteur du Dictionnaire amoureux de la Bible chez Plon et aussi de « Jésus, le Dieu qui riait », une histoire joyeuse du Christ, disponible en livre de poche. Alors Barbatruc, c'est une émission où on plonge dans les grands récits pour les enfants, Didier Decoing, dans les histoires qu'on se raconte, qu'on leur raconte. Est-il insultant, à votre avis, de parler de la Bible, et comme on le fera plus tard aussi, du Coran et de la Torah, sous cet angle-là ? La Bible est-elle un récit d'aventure ?
C'est un récit d'aventure, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de tous les jours, c'est un conte de fées, c'est une révélation. La Bible, c'est le livre des livres, c'est tout ce que vous voulez. Non seulement c'est pas insultant ni choquant d'en parler, mais il faut en parler.
D'en parler comme d'un livre d'histoire.
Mais bien entendu.
La Bible ne fait pas la morale, écrivez-vous Anne Soupa, elle raconte.
Oui, il y a une grande part de récit dans la Bible. Et tous les textes qui commencent par « Il était une fois » nous captivent. Donc je crois que la Bible a de quoi nous captiver par cette aptitude à raconter la vie. La Bible est un livre de vie, tout simplement.
Mais est-il possible de parler de religion aux enfants sans essayer de les convaincre de croire ?
Oh, les enfants sont beaucoup plus rusés et intelligents qu'on le croit. Et je crois qu'ils se construisent leur monde enfantin. Et ils sont tout à fait capables, par eux-mêmes, de décider de croire. Je pense qu'ils ne subissent pas notre influence à tout prix dans ce domaine.
Comment expliqueriez-vous le mot « foi » à un enfant, Didier Decoing ?
Je dirais que c'est un acte de confiance. Je pense que le petit garçon, la petite fille, ne se pose pas la question des fins dernières. Qu'est-ce qui va arriver après quand je serai très, 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 très vieux et que, voilà, et qu'on m'emmènera au cimetière. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il va s'interroger. D'abord, il va perdre des gens de sa famille. Il va découvrir la réalité de la mort et il va se dire, et moi, dans tout ça? Et là, peut-être que il a besoin d'avoir confiance en une histoire, en une réponse. Et la Bible lui apporte cette réponse, la foi lui apporte. Alors, il l'apprend ou il ne l'apprend pas, mais lui propose en tout cas cette réponse.
Ça n'est pas « et Dieu dans tout ça », c'est « et moi dans tout ça ».
Et moi dans tout ça, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est C'est la réponse que Maurice Clavel, le philosophe, avait donnée un jour. Il faisait une émission un petit peu comme celle que nous faisons maintenant. Et puis il était titillé par les intervieweurs, etc. Comment vous pouvez croire, vous, un grand philosophe? Comment vous pouvez croire? C'est des âneries, tout ça. Et finit par se fâcher. Oh, et Dieu est Dieu, nom de Dieu. Et j'ai trouvé que c'était une formidable façon d'affirmer son point de vue et de museler l'adversaire.
Judas, personnage clé de la Bible, l'un des 12 disciples de Jésus. Que pensez-vous des mots de l'enfant qu'on vient d'entendre dans le générique, Ansupa, qui disait que les disciples, c'est un peu comme une entreprise dont Jésus serait le patron?
Vous me troublez parce que je n'ai jamais vu la question sous cet angle-là. Je crois que Jésus avait une autorité naturelle. C'est pas une autorité de chef d'entreprise, mais tout naturellement, il induisait le respect parce que je crois tout simplement qu'il avait compris ses interlocuteurs, qu'il les considérait comme des êtres humains libres, décidés, qui venaient d'eux-mêmes auprès de Jésus. Et je crois que c'est ce respect qui fait que Jésus était comme un vrai boss, mais un boss au grand sens du mot.
Et parmi les 12,
Parmi les 12, il y en a un. Mais j'insiste pour ma part sur le côté ensoleillé de l'histoire de Judas.
Judas côté soleil, vous l'écrivez dans votre livre.
Il a connu la même chose que les autres. Il a été associé à tout ce que la petite troupe a connu au cours de des pérégrinations à travers la Galilée. Donc il est l'un des 12 à part entière.
Écoutons, si vous le voulez bien, un premier extrait de la Bible, Évangile selon Luc, le dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Ses disciples vinrent en la ville et ils préparèrent ce qu'il fallait pour la Pâque. Sur le soir, il se rendit là avec les 12. Et étant à table et mangeant, Jésus leur dit « Je vous dis en vérité que l'un de vous qui mange avec moi me trahira ». Ils commencèrent à s'affliger et chacun d'eux lui demandait « « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met la main avec moi dans le plat. » Pour ce qui est du Fils de l'homme, il s'en va selon ce qui a été écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera trahi. Il vaudra mieux pour cet homme-là que jamais il ne fût né.
Lecture par Jean-Pierre Michael, c'est un livre audio de la Bible édité chez Frémaux et Associés. Il faut toujours un méchant dans une histoire, Didier Decoing. Judas est-il le méchant de la Bible?
Eh ben non. Les autres, on ne nous dit pas qu'il a été regardé par ses camarades d'une manière accusatrice ou suspicieuse, etc. Non, je pense qu'il faisait partie de la bande. Vous avez dit tout à l'heure, c'est une petite entreprise. Oui, il y avait un comptable, Judas, comptait bien. Il y avait un médecin qui était Matthieu. C'était vraiment construit comme une petite... Je ne suis pas certain que Jésus l'ait fait exprès, mais c'est vraiment construit comme une petite entreprise. Et donc voilà, chacun était à son poste.
On peut conseiller aux enfants qui nous écoutent de regarder en même temps un célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène. C'est le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres, peu de temps avant son arrestation. Judas serait le 4e en partant de la gauche sur ce tableau, celui qui tient une bourse à la main. Judas, qui était pourtant un homme riche, Ansupa, a trahi pour 30 deniers. Alors la somme importe peu évidemment, mais il a trahi pour de l'argent.
Alors ça, il faut rentrer dans la construction des évangiles pour en être sûr. Vous savez, il y a 4 évangiles, il y a 4 récits, et ils n'ont pas tous été écrits à la même date. Le plus ancien, c'est Marc, après il y a Matthieu, après il y a Luc, et après il y a Jean. Et si vous écoutez
Marc... C'est une histoire écrite par ceux qui la vivent, soit dit en passant, c'est assez original.
Oui, effectivement, les informations se suivent et ne sont pas forcément les mêmes. Alors chez Marc, le récit est très très sobre. On dit simplement que... les prêtres à qui il a été livré Jésus, Judas, que les prêtres ont proposé de l'argent à Judas. On ne dit pas qu'il a été demandé de l'argent. La cupidité n'est soulignée que 30 ans plus tard avec l'évangile de Matthieu. Ce qui donne à penser, ce qui nous ouvre sur un gouffre rédactionnel.
Pourquoi ?
Qui est... Pourquoi est-ce qu'on a voulu charger ? Alors oui, Judas n'était peut-être pas le méchant au tout début de l'histoire, dans l'histoire historique, si on peut dire, mais au fur et à mesure qu'on a écrit les évangiles, oui, on l'a chargé. Ça, c'est très important et très grave.
Jésus, à table, donc, dit que l'un des siens va le trahir. En voilà un mot impressionnant pour les enfants, ce mot trahison, Anne Soupa.
Oui, et c'est un mot qui avait peut-être plus de poids dans l'histoire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est moins sensible à ça. Mais je voudrais surtout dire que le mot grec que l'on traduit par trahir est en fait un mot qui veut dire livrer. Et livrer a beaucoup moins de résonance morale que trahir. Livrer, c'est un acte formel. On livre un paquet, on livre quelque chose. Bon, donc ça dépassionne le geste de Judas de tout ce que nous avons pu imaginer d'affectif, de frustration dans une amitié. Et pourtant, l'amitié reste et elle reste questionnée par ce geste.
Résonance morale, en effet. Nous avons soumis ce mot, le mot trahison, à des enfants au micro de Caroline Pommès.
Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un nous confie un secret et après on le dit, bah, c'est pas honnête.
Quelqu'un qui est trahi, c'est quelqu'un qu'à la base on croyait qu'il était aimé, mais en fait il l'aime pas du tout, il a fait quelque chose contre quelqu'un. On sera adolescent, nous aussi on se fera trahir. Je sais pas, c'est pas comme si j'avais rencontré des tonnes de gens différents.
Ça arrive parfois, il y a des choses comme ça. Pas des traîtres avec des arrestations et de la mort, mais... Pas moi, mais il y a des gens, je connais, qui ont été dénoncés à des autres gens, de choses, de secrets.
En fait, les histoires de balancement, j'en entends beaucoup parler, mais autour de moi, pas moi.
Ça arrive des fois dans les amitiés, mais y a toujours un méchant dans une histoire. Même dans la Bible, il faut toujours quelqu'un pour représenter la personne qui, à un moment, s'est laissée avoir par le mal.
À mon avis, Jésus, il pardonnerait jamais Judas, même si c'est une fois. Si quelqu'un est torturé à cause d'un faux ami et qu'il a trahi, moi je pardonnerai pas.
Mais Jésus, au départ, il savait pas qu'il était traître et qu'il allait devenir grandiosement connu dans tout le monde. Bon, grandiose, moi je suis pas sûre que c'est français, mais...
Pour devenir plus populaire, tu fais des trucs pas très gentils aux autres.
C'est souvent les gens les plus méchants qui deviennent plus populaires parce qu'en fait, ils arrivent à rabaisser les autres et du coup... Enfin, il s'élève plus haut.
Et des fois, quand on se trahit, surtout, c'est quand l'amour a rendu aveugle la personne.
J'ai juste entendu parler de l'amour vache, c'est quand t'aimes quelqu'un, et bah t'es pas sympa avec lui et tout ça. Mais à mon avis, Judas et Jésus, c'était pas la même chose. Judas, je trouve juste que c'est un gros traître.
Bon, on dit poucave.
Ou la balancer.
Balancer ou rapporter.
Par exemple, moi, c'est plutôt moi qui dirais elle m'a poucave.
Jésus, il s'est fait poucave par Judas.
Je sais pas encore clairement ce que ça fait parce que j'ai jamais été trahi, mais à mon avis, on est bien dégoûté après.
Ça peut avoir des remords, tu peux avoir plein de souvenirs. Enfin, pas tomber en dépression, mais au niveau psychologique, ça peut un peu te perturber.
Jésus s'est fait poucave par Judas et voilà que la Bible prend une autre tournure, Didier Decoing.
Mais c'est sa vraie tournure, c'est celle du quotidien. C'est pas un truc exceptionnel, la Bible. C'est pas un livre qu'on sort uniquement le dimanche. On doit la lire tout. Enfin, on doit si on aime, mais ça se lit tous les jours. C'est très, très quotidien comme livre.
Une hypothèse très intéressante vient d'être avancée, celle d'une histoire d'amour vache entre Jésus et Judas.
Oui. Moi, j'ai une vision spéciale de Judas. Je n'exclus pas le fait que Judas ait été le plus croyant des 12. Celui qui avait la foi la plus indiscutable, la foi du charbonnier. Donc il voit ce Jésus dont tout le monde veut la peau, Jérusalem, les prêtres, Rome, etc. Tout le monde veut la mort de Jésus. Et il se dit, dans le fond, si on leur livre Jésus, les douze, nous, on aura la paix, la maman de Jésus, Marie, qui est avec nous, elle aura la paix, etc. Bon, évidemment, ça va être embêtant pour Jésus, parce qu'ils vont lui faire du mal. Mais puisqu'il est le fils de Dieu, il risque pas grand-chose. Imaginons qu'il le crucifie. S'ils le mettent en croix, bon, il aura qu'à descendre de la croix et il en arrachera les clous. Donc peut-être que c'est par une sorte d'excès de confiance, d'excès de foi, que Judas dit ben, « je vais le livrer, il s'en sortira ». Et le remords épouvantable de Judas qui va l'amener à une fin atroce, elle est due au fait que tout d'un coup il réalise que Jésus est vraiment mort pour de vrai. Et ce qui, moi, m'énerve, c'est que tu aurais attendu, pauvre Judas, tu aurais attendu quelques jours, il y aurait eu le dimanche de la résurrection, tu aurais su que, oui, non, il était mort, mais il était revenu à la vie, il était ressuscité.
On va y venir dans un instant, bien sûr, à la fin tragique de Judas. Anne Soupa, que retenez-vous dans ces paroles d'enfant qu'on vient d'entendre?
Je les trouve merveilleuses.
C'est de la philo.
Et elle m'aide à voir que chez Judas, il y a une très grande déception. Je crois que Judas est un homme déçu. Effectivement, Didier Decoin parle de sa foi très grande. Je partage ce point de vue, mais je crois que la foi de Judas, elle s'est embarquée dans une direction qui n'est pas celle que Jésus voulait montrer au monde. Et c'est ça où il y a un quiproquo entre Judas et Jésus. Le quiproquo, c'est que Judas attend un sauveur qu'on appelle messianique, c'est-à-dire humain, glorieux, qui va libérer Israël de la domination romaine. Enfin, il va un grand chef militaire et politique, quoi. Bon, et en fait, Jésus est un sauveur très humble, très très faible, qui accepte la condition humaine de tout le monde et qui, en faisant ça, nous montre que notre condition humaine est divine et merveilleuse. Et il nous invite à vivre divinement notre humanité, si on peut dire. Mais ça, c'est très long pour comprendre ça. Judas ne peut pas comprendre ça tout de suite. Et d'abord, il passe par une espèce de décompensation psychique tragique. Moi, il m'arrache des larmes, Judas, par de son malheur. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans des conditions de déception pareilles.
Judas est le saint patron des espoirs déçus. C'est ce qu'écrit Didier Decoin dans son dictionnaire amoureux de la Bible. On poursuit cette histoire dans un instant. Voici d'abord Delgrès sur France Inter. Programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Cette émission est préparée par Anne-Sophie Dazard, réalisée par Christophe Imbert. Elisabeth Collet est à la technique.
Barbatruc, Dorothée Barba sur France Inter.
Ce n'est pas pour rien que le petit trou dans la porte où l'on jette un œil avant d'ouvrir s'appelle un Judas. C'est un dispositif un peu traître qui permet de voir sans être vu. La traîtrise comme définition de cet homme, figure centrale de la Bible, nous consacrons cette émission à Judas, la Bible expliquée aux enfants dans Barbatruc, avec deux invités, Anne Soupa et Didier Decoin. Venons-en au baiser, s'il vous plaît. C'est en embrassant Jésus que Judas le livre, extrait de l'Évangile selon Marc, toujours lu par Jean-Pierre Michael.
Levez-vous, allons. Celui qui me doit trahir est bien près d'ici. Il n'avait pas encore achevé ces mots que Judas Iscariote, l'un des douze, parut suivi d'une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons qui avaient été envoyés par les princes des prêtres, par les scribes et les sénateurs. Or Judas, qui le trahissait, leur avait donné ce signal et leur avait dit « Celui que je baiserai, c'est celui que vous cherchez. Saisissez-vous de lui et l'emmenez sûrement. » Aussitôt donc qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, je vous salue. » Et il le baisa. Ensuite, ils mirent la main sur Jésus et se saisirent de lui. Un de ceux qui étaient présents, tirant son épée, en frappa un des gens du grand prêtre et lui coupa une oreille. Et Jésus leur dit « Vous êtes venus pour me prendre, armés d'épées et de bâtons, comme si j'étais un voleur. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point pris. Mais il faut que les Écritures soient accomplies. » Alors ses disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous.
Comment comprendre ce baiser de Judas, Anne Soupa ? Était-il nécessaire pour que l'on reconnaisse Jésus ?
Alors c'était un signe traditionnel de reconnaissance entre un maître et un disciple. Donc il y a quelque chose qui n'est pas choquant en soi. Bon, par contre, littérairement, ça provoque quelque chose d'une sorte de déflagration interminable, parce que c'est un geste équivoque. Mmh. C'est un geste d'amour et qui est en train de se transformer en geste de dénonciation. Donc on peut chercher, sans trouver la réponse, de manière interminable, le sens de ce baiser. Et je crois que c'est ça qui en fait la richesse. C'est une image inépuisable.
Et pour vous, Didier Decoin, quel est le sens de ce baiser ?
Mais je vais être très terre à terre, parce que je pense que Anne Soupa a dit une chose importante en commençant son explication. C'était l'usage de reconnaissance entre le maître et le rabbi. Et ils se sont pas posés. Je pense même pas que ça ait été prémédité d'aucune façon. Je crois pas qu'il faille chercher. Quand on lit la Bible, la mauvaise attitude, me semble-t-il, est d'aller chercher du sens là où il y a simplement du fait. Hein, les choses sont, voilà.
Une expression, le baiser de Judas.
Oui, c'est devenu une expression. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est un geste d'amour, de tendresse. On dit, il aurait pu trouver autre chose. Mais c'est ce qu'on faisait. Bah oui, mais c'est ce qu'on faisait à l'époque où on s'embrassait. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans l'histoire des hommes, l'histoire du monde, les trahisons sont souvent le point de départ. Ce qui va désigner le trahi, hein, ceux qui vont l'arrêter, c'est souvent un geste d'amitié.
Quelque chose qui m'a frappé à la lecture de votre dictionnaire amoureux de la Bible, Didier Decoin, cette phrase « Noli me tangere », une phrase prononcée par Jésus à Marie-Madeleine dans la Bible, « Ne me touche pas ». Ce « Noli me tangere », écrivez-vous, est pour moi l'instant le plus éblouissant, l'apogée, le zénith de la résurrection. Je suis sûre que vous y pensez depuis la crise sanitaire et les gestes barrières. Ne me touche pas.
Non, parce qu'il n'y a pas de ressuscité sur cette terre, dans les transports en commun ou dans les restaurants ou les salles de spectacle. Mais je trouve que c'est magnifique parce que elle aime tellement Marie-Madeleine, elle aime tellement Jésus. Elle se jette sur lui, elle le croyait mort. Et non, il est là en pleine lumière. Donc elle va le serrer dans ses bras. Et lui, il a un corps qui est déjà le corps glorieux. Et c'est peut-être, ça ne se touche pas, ça. Et il dit, non, Noli me tangere, ne me touche pas. C'est l'aveu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, mais je ne suis plus exactement le même.
Revenons-en à Judas. L'histoire de Judas est une histoire d'amitié trahie, évidemment. Le sujet inspire les enfants. Notre reporter Caroline Pommès a demandé à ceux et celles qu'elle a rencontrés dans la rue de nous parler de leurs amis. Sur quoi repose la confiance en amitié ?
Je leur fais confiance parce que c'est mes amis et je sais que ça leur viendrait jamais à l'idée d'être méchante, quoi, ou de me trahir. Parfois, elles font des actes gentils, quoi. Du coup, bah, plus elles font des choses gentilles, plus ça nous met en confiance.
Et après, il faut voir quelle personne tu fréquentes, parce que c'est pas un hasard. Enfin, aussi, les traîtres, parfois, c'est des gens qui sont vraiment méchants. Et moi, je fréquente des personnes gentilles, j'ai des bons amis, du coup, je pense pas. Barnabé et Gabriel.
Pour moi, elles sont particulières. Après, pour tout le monde, par exemple, pour Lucie, Léonore, elle est particulière. Et pour Lucie et Léonore, Victoire, elle est particulière.
C'est des meilleurs amis, moi, je dis comme ça. Et j'ai vraiment leur confiance et on se connaît depuis longtemps. Et aussi qu'on vive des choses ensemble, qu'on aille à l'école ensemble, bah, ça joue, je trouve, sur l'amitié et la confiance.
Un lien, ça prend du temps à se former, mais à se former comme un arbre. Ça prend du temps à être vraiment solide.
Quand on commence à se dire qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut lui confier un secret sans qu'il te dénonce. Et pourtant, c'est ce qu'a fait Judas avec Jésus.
Bah, il faut attendre le temps pour bien les connaître et... Enfin, pas les évaluer, mais voir un peu leur personnalité et tout. Si tu as bien choisi tes amis.
Jamais. Je le sais, elle me trahirait jamais.
Bah non.
Enfin, peut-être une fois, mais enfin, ce serait vite pardonné parce que ce serait pas grand-chose. On arrivera à pardonner.
Quand on est tout petit, bah ça se forme direct. Comme en petite section, on connaît personne. Donc ça se fait direct. Mais quand on devient plus grand, faut apprendre à connaître la personne. Et créer des liens. J'ai avec des personnes que je connais depuis la petite section, que j'aime pas du tout.
Quand tu fais confiance à quelqu'un, tu lui fais confiance et tu vas pas trahir sa confiance parce que tu sais que tu dois le respecter. Et il...
C'est pas pour qu'il soit trahi.
Judas, il a quand même fini par se suicider et... Ça veut dire qu'au fond de lui, ça l'a quand même marqué de devoir trahir un ami pour de l'argent.
Ça va être très dur de faire en sorte que tu le refasses confiance.
Puis tu voudras te venger. Et en même temps, ça fait du mal aux deux parce que ça fait du mal à celui qui faisait confiance. Et à la fin, au bout d'un moment, tu regretteras d'avoir fait ça. Parce que t'as perdu un ami qui pouvait être cher pour toi.
Avoir confiance en quelqu'un, c'est comme si on était lié, quoi, par un fil. Et qu'on pouvait pas se détacher.
Un lien d'amitié, c'est comme un arbre, dit cet enfant, ça prend du temps à pousser. Anne Soupa est éblouie.
Oui, je suis éblouie par ces paroles d'enfant et il y en a une qui me retient. Il y a un des enfants qui a dit, mais il aurait fallu savoir qui le traître fréquente. Et pour Judas, c'est très intéressant parce que Judas fréquente les milieux des grands prêtres, les milieux du temple, les prêtres juifs de l'époque. Bon, et effectivement, c'est l'establishment, c'est les gens au pouvoir, c'est les légalistes, c'est universel, ça traverse les cultures. Il y en a tout le temps, partout, ça fait partie du monde. Bon, et ces gens-là, Judas en était très près. Et je pense que les évangélistes, Marc, Matthieu, Luc, même Jean, finalement, ils en ont après le temple. Ils sont en colère contre le temple. Ils sont déçus que les milieux bien établis n'aient pas eu confiance en Jésus et n'aient pas réussi à le suivre. Il y a une grande... La déception, c'est aussi celle des évangélistes. Et c'est intéressant de voir comme il y a des ricochets dans l'histoire évangélique.
Vous voulez dire qu'il a été dépeint de cette manière parce qu'il a déçu Judas ?
Bien sûr, Judas Judas a trahi, mais les évangélistes ont été déçus par les milieux du temple, et Judas est un ami des milieux du temple. Vous voyez, donc par ricochet, on atteint le temple, qui est la grande institution juive, et Jésus, qui se présente comme l'envoyé, eh bien, les siens ne l'ont pas reconnu. C'est cette parole-là que les évangélistes voudraient arriver à nous mettre dans la tête. Et c'est vrai qu'il y a des chaînes d'amitié et de délation qui se construisent selon des grandes options de la vie, des grands choix, la loi ou bien le courage dans la résistance éventuellement. Vous voyez, on a des comportements qui se reproduisent dans toutes les cultures.
L'un de ses enfants a employé le verbe évaluer. Peut-on évaluer la relation d'amitié entre Jésus et Judas ?
Ah, moi, je la crois très forte. Je la crois très forte, mais mal fondée, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, peut-être mal installée. Mais Judas était certainement l'un des amis les plus chers de Jésus. La meilleure preuve, c'est qu'il tenait les cordons de la bourse. Et quand on confie la responsabilité des
c'était
comptes
le comptable.
À quelqu'un, il était le comptable. Quand on confie cette responsabilité, c'est qu'on lui fait confiance. Donc, Jésus faisait parfaitement confiance à Judas.
Donc il n'est pas l'incarnation du diable, Anne Soupa, Judas.
Dans l'esprit de Jésus, absolument pas. Je crois qu'on est d'accord tous les deux pour
Didier
le dire.
Didier de Coin.
Non, tout sauf ça. C'est monstrueux. C'est le rependre une deuxième... Non, surtout pas. Non. Non, c'est pas le diable.
Alors nous allons en venir à la fin. Que devient Judas après sa trahison ? Ouvrons à nouveau la Bible. Évangile selon Matthieu, récit des remords de Judas et surtout de sa mort.
Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors il regrette ce qu'il a fait.
et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit « J'ai péché, j'ai livré un innocent à la mort. » Ils lui répondent « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Judas jette l'argent dans le temple et il part. Ensuite, il va se pendre. Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant « Nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. » Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui le champ du sang.
Un extrait de Paroles de vie, version simplifiée de la Bible, lu ici par Laurent Jacquet, extrait d'un coffret DVD, les quatre évangiles en film. Didier Decoin, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Judas n'a pas gardé cet argent obtenu en livrant Jésus et surtout il se suicide à la fin.
Il considérait que cet argent lui brûlait les doigts, lui brûlait le cœur, lui brûlait la mémoire, il ne pouvait pas le garder. C'était maudit. Et remarquez la phrase, il le jette dans le temple, il le rend pas dans... Les autres n'en veulent pas non plus d'ailleurs. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse après? Il a dit c'était un innocent. Ça me rappelle ce que disaient les soldats anglais devant le bûcher de Rouen, après avoir brûlé Jeanne. Nous avons brûlé une sainte. C'est dommage de s'en apercevoir si tard. Et Judas, se rendant compte de ce qu'il a fait, ben, ne trouve que la pire des portes de sortie, qui est d'aller se tuer, pour éteindre, je pense, son sentiment de déception dont parlait Anne Soupa tout à l'heure, éteindre ce sentiment de « je ne peux plus supporter ce qui s'est passé, je ne peux pas supporter l'homme que j'ai été, je ne peux pas supporter ce que j'ai fait à l'homme que j'aimais, qui était Jésus ». Dans ces cas-là, vite une anesthésie générale. Pour Judas, l'anesthésie générale, c'est la corde au cou.
Anne Soupa, le suicide, c'est le refus du pardon de Jésus? Le refus de la rédemption?
Absolument pas, non. Non, Jésus a toujours offert son pardon à tout le monde. Mais Judas n'a pas pu le prendre, ce pardon. Et je suis extrêmement sensible, je suis presque écorchée vive devant la souffrance de Judas. Si vous faites attention à la phrase qu'il prononce, « J'ai livré un sang innocent ». Il ne dit pas « J'ai envoyé mon ami à la mort ». Il ne fait mention d'aucun lien d'amitié. Mmh. Il a une phrase sèche de juriste. C'est une phrase du Deutéronome, un autre livre de la Bible. Voilà, j'ai livré un sang innocent, j'ai fait une faute. Bon, mais il ne dit pas « mon ami très cher est mort ». Et là, c'est, pour moi, c'est le drame psychologique de Judas, c'est qu'il n'a même plus en lui la ressource de l'amitié. Et souvent, on compare Pierre et Judas. Pierre et Judas ont tous les deux fait un acte extrêmement répréhensible envers leur ami.
Il faut rappeler qui est Pierre, Anne
Soupa. Pierre est le plus grand des disciples, celui que Jésus a choisi pour avoir les clés de la maison église, même si le terme n'est pas encore donné. Et Pierre est chargé potentiellement des grandes responsabilités dans l'avenir. Bon. Et voilà que Pierre, au soir de l'arrestation de Jésus, sous l'injonction d'une servante qui lui dit « Ah, c'était ton ami !» dit « Non, non, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas ce Jésus dont tu parles. » Et par trois fois, Pierre renouvelle ce refus de connaître Jésus. Bon, donc Pierre a renié quand Judas a livré.
Vous dites que c'est pire ?
Ah, je dis que ça se ressemble. Je dis que ça se... Dire qu'on ne connaît pas son ami, je trouve que c'est très grave. Bon, mais... L'un va devenir le chef de l'Église catholique et l'autre va se pendre. Vous voyez que le contraste est considérable. Et moi, je vois le contraste dans le lien d'amitié que Pierre a su garder. Parce que au moment où le coq va chanter, Pierre va se souvenir que Jésus lui avait dit « Avant que le coq ne chante trois fois, tu m'auras renié ». Et la remémoration de Pierre est la preuve que l'amitié est vivante dans le cerveau de Pierre, dans son psychisme. Alors que chez Judas, il n'y a rien. C'est un psychisme plat, déserté par l'amitié. Il n'y a plus que la loi. Voyez. Et ça, pour moi, c'est une leçon de vie considérable. Dans le pire des malheurs, garder le souvenir d'un ami, c'est la planche de salut. C'est là qu'il y a un pardon. Judas n'a pas pu, et Judas est un homme à plaindre parce qu'il ne pouvait pas le faire, Judas n'a pas pu faire ça. Et il est allé vers la mort. Il n'y avait plus rien de vivant en lui. Voilà une tragédie qui, je trouve, doit nous arracher des larmes, parce que nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour éviter cela autour de nous.
La morsure du remords n'attend aucun pardon. C'est ce que vous écrivez dans votre livre sur Judas, Anne Soupin.
Oui, Judas n'attend même pas le pardon. Vous voyez, c'est là où on voit qu'il est désespéré.
Didier Lecoing.
Oui, une question qui me taraude depuis longtemps, c'est que avant le dernier repas, Jésus dit, l'un de vous va me trahir, etc. Il eût mieux valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né. J'ai comme l'impression qu'il refuse. Il refuse son pardon par avance. Et si Judas a entendu ça, on peut comprendre qu'il se soit désespéré. Donc, c'est même pas la peine que je demande pardon, puisqu'il a dit qu'il aurait mieux valu que je n'existe pas.
Je ne l'interprète pas comme une anticipation du refus de pardonner. Je l'interprète comme une évocation de l'immense souffrance que Judas va connaître. Il aurait mieux valu ne pas naître. Tous les bonheurs de la vie, Judas ne les connaîtra même pas. Il n'est même pas né au bonheur du monde.
C'est pire que tout. Moi, je l'interprète comme ça. Sous-entendu, c'est pire que tout.
C'est pire que tout.
J'achète votre interprétation.
Elle n'est pas chère, ça tombe bien. La force du pardon, la difficulté du pardon, voilà où nous mène, bien sûr, l'histoire de Judas. Écoutons ce qu'en pensent les enfants et les ados rencontrés par notre reporter.
Barbatrix sur France Inter.
Je ne sais pas vraiment si je pardonnerais cette personne qui m'a trahi. Parce qu'il fait quelque chose de très gentil et qui fait du bien aux autres, encore là peut-être, qui s'est excusé et tout ça. Mais s'il continue à trahir les gens, là, jamais.
Jésus, il pardonne tout le monde de ce qu'ils font, donc je pense que Judas, il a été pardonné. Moi, peut-être que j'attendrai un peu, et puis s'il redevient gentil, ou s'il s'excuse beaucoup et tout, peut-être que je redeviendrai amie avec.
Mais après, non plus, il ne faut pas que la personne vienne forcer. Que la personne fasse « pardonne-moi » à chaque minute, à chaque seconde et tout ça.
Si on me trahissait, moi, je ne serais pas content. Mais après, j'essayerais de voir parce que si, par exemple, celui qui m'a trahi devait vraiment me trahir, bah, c'est plutôt de la faute des gens à qui il a dit les secrets ou à qui il a tout livré.
Si on parle d'ennemis, des personnes qu'on n'aime pas, on a tous quelqu'un comme ça, mais des Judas, des personnes qui sont prêtes à trahir les gens, non, je connais pas.
Bah, pour se faire pardonner, faut faire ses preuves, quoi. Enfin, faut montrer que t'es capable d'avoir à nouveau ma confiance. Quand tu vois que la personne redevient une bonne personne.
Je sais pas si je pourrais comprendre, mais en tout cas, je réglerai pas ça par la violence ou par une vengeance. Je réglerai ça par la parole. Ça dépend du contexte. Enfin, il y a des trahisons entre amis et d'autres très graves, comme par exemple Judas et Jésus, parce que ça a quand même apporté Jésus à la mort.
Moi, s'il pardonne et qu'il veut qu'on redevienne ami, ça fait un copain de moins toujours. Donc moi, j'accepterai, même si après l'avoir, m'être beaucoup énervé sur lui, après m'être... Je redeviendrai copain, ça c'est sûr, parce qu'on reprend.
Si celui qui l'a trahi, il a envie de se faire pardonner et dit pardon et que chacun fait son effort, alors oui, je serai prêt à le pardonner.
Moi, je serais triste parce que j'avais mis en lui. Je croyais que c'était quelqu'un qui ne me trahirait jamais, si c'est un ami.
Propos recueilli par Caroline Pommès. Et la même chose, une réaction, Anne Soupin ?
Oh, c'est un vrai bonheur de les entendre. Dans l'ensemble, ils ont envie de pardon. Je relève ça tout de suite. Et ils sont bien, vos petits-enfants. Ils sont très bien.
Didier Lecoing.
C'est vrai que c'est émouvant. Il n'y en a pas un qui dit, ce salaud de Judas, moi j'aurais été Jésus.
Oh, si.
Non, c'est pas aussi agressif que ça. C'est beaucoup. Bon, il faut qu'il fasse ses preuves, mais s'il me demande pardon, s'il s'excuse beaucoup, s'il ne le fait pas toute la journée, ouais, je peux pardonner. Ils sont enclins au pardon, je crois.
Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Judas est-il un bouc émissaire, Anne Soupin ?
Ah oui, oui, quand on regarde comment les évangiles ont été écrits, on a bien vu qu'au fil du temps, on a chargé Judas de tout ce qui allait, de tous les péchés du monde.
Il est bien
pratiquement.
Commode.
Il est bien commode, oui. Et je crois que c'est un bouc émissaire, mais ça c'est une histoire trop compliquée à évoquer, à déplier complètement. Mais je crois qu'il a été chargé, parce que la tradition juive y portait, à devenir ce qu'on appelle le bouc émissaire.
C'est une expression biblique, hein, d'ailleurs,
voilà,
le bouc émissaire.
C'est une expression qui vient du livre du Lévitique, c'est-à-dire celui qui, vous savez, c'est une très très belle tradition, une fois par an, dans l'assemblée du peuple au désert, eh bien, la communauté confessait ses péchés en silence, je crois, au grand prêtre, qui mettait les mains sur un bouc, et puis après, on envoyait le bouc au désert et on le jetait dans un précipice. Et en le jetant dans le précipice, tous les péchés étaient absous, disparus. Et la communauté repartait comme à neuf pour une nouvelle année.
Il sert à ça, Judas.
Voilà, et Judas sert à ça. Il décharge la mauvaise conscience des 12 d'avoir abandonné leur ami au moment de la mort. Je pense que c'est une explication qui tient la route.
L'ampleur de ces remords en fait-elle un coupable idéal ?
Exactement, bien sûr. Bien sûr, c'était bien facile de charger Judas. Et en plus, là, il y a quelque chose de tragique, c'est que Judas porte le nom de tout le monde en Israël. Il s'appelle le Juif, il s'appelle Monsieur Tout-le-Monde, Monsieur Dupont. Bon, et effectivement, les évangélistes, dans quelque chose dont ils n'ont pas perçu les conséquences dramatiques au cours de l'histoire, les évangélistes l'ont appelé du nom le plus commun qui soit, mais du nom d'Israël, du nom de Juif. Et Judas a été à la source d'une bonne part de l'anti-judaïsme chrétien au Moyen-Âge. Et ça, c'est une faute d'une lourdeur qui nous accable encore. C'est lourd à porter.
Judas a été un outil d'antisémitisme, voilà. Oui. Finalement. Oui. Didier Decoin, peut-on penser que Jésus a missionné Judas pour le livrer ? C'est une interprétation parfois.
Je crois que Judas, il est nécessaire à l'histoire. Mm-hmm. Alors là, je vais réagir en tant que scénariste. Enlever Judas, il n'y a plus d'histoire. Parce qu'il faut bien quand même arriver à un moment qui est le moment clé, les deux moments clés, crucifixion, résurrection. Et pour arriver là, il faut passer par l'arrestation du Christ. Et si Judas n'est pas là, bon, on voit pas Jésus se livrer en disant « Eh oh, je suis le fils de Dieu, arrêtez-moi, ça tient. » Donc il est nécessaire, Judas. Moi, à Dieu ne plaise, mais si j'ai pu le bonheur d'écrire un livre sur Judas, j'aurais appelé Judas ou la nécessité. J'ai toujours trouvé qu'il y a quelque chose de nécessaire chez Judas, ce qui le disculpe d'une certaine manière. C'est quelque chose qui n'est pas de sa faute. J'aurais aucun problème à prendre un thé avec Judas.
Ah, on termine là-dessus, c'est l'heure du thé. Anne Soupa, un dernier mot, que vous apprend-il ? Est-ce que c'est une leçon de sagesse, le parcours de Judas ?
Oui, c'est une grande, grande leçon de sagesse parce que il nous apprend que le mal, Judas, c'est nous. Hein. Judas, c'est pas n'importe qui. Je vous ai dit que c'était Monsieur Dupont en Israël, mais c'est nous aujourd'hui. Donc, il nous invite effectivement à ne pas projeter le mal dont nous sommes l'auteur sur les autres. Il nous invite à garder ce mal en nous. Et il nous apprend aussi que le mal est trop grand pour que nous le portions tout seul. Il y a une sorte de gestion collective du mal, de gestion humaine que nous devons essayer d'apprendre. Et nous devons éviter de dire c'est la faute de l'un, de l'autre. Ça n'aboutit qu'à une cacophonie qui rend la vie impossible.
À ce titre-là, cette histoire a un intérêt, quelle que soit sa religion et que l'on croit
oui,
ou non.
Oui, elle est tout à fait susceptible de nous parler, quelle que soit notre religion. Elle nous dit « portons le mal ensemble, parce que sinon, nous ne pourrons pas vivre. »
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Of holding shards and claiming I'm stolen. We wait by the thorns we grow. Rest assured, I know. Such things don't stay around here. We only know about it.
counterfeit love gift just enough. Made me believe there's more to us than a conditional tie. But what's worse? Same old story we all serve.
Call Your Name, c'était Torah sur France Inter. J'ai un livre à vous conseiller, idéal pour parler de religion avec les jeunes enfants. Cité Babel de Pascal Edelin et Gaël Duazé. C'est un grand livre qui nous plonge dans un immeuble. Une famille catholique vit au premier étage, une famille juive au deuxième et une famille musulmane au troisième étage. Quant à l'épicier du rez-de-chaussée, il est athée. Alors que l'on fête Noël, Pessah ou l'Aïd, chaque religion est ici expliquée avec des textes et des dessins qui sont très chaleureux. Ce livre est un petit bijoux de pédagogie ludique. Cité Babel, le grand livre des religions. À partir de 5-6 ans, c'est aux éditions des Éléphants. Quoi d'autre au rayon jeunesse de vos librairies? Denis Chessou surveille ça de très près. Voici ses conseils de lecture.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu lis, mon petit loup.
Eh ben oui, c'est l'actualité du livre pour enfants. Qui débute avec La maison de l'ours et tout ce qu'elle contient d'Émilie Vast aux éditions Mémo, c'est à partir de 5 ans. Alors c'est un album subtil et sans morale sur l'accumulation, le désir de posséder si cher à notre société, rempli de vide. Une famille d'ours, oursonne, ours et leurs petits, vivent tranquilles dans une grotte sombre, mais alors confortable. Un jour, cherchant des champignons, Dame Ours est fascinée par des maisons, leur taille, leur solidité et toutes les jolies choses qu'elles contiennent.
Elle trouva sa grotte lugubre, austère. Cela désola Ours qui s'en aperçut. Elle trouvait merveilleux ce qu'elle avait vu.
Alors notre ours, voulant faire plaisir à son oursonne, donna des instructions à ses copains animaux.
Ils rapportèrent tous les matériaux et objets éparpillés dans la forêt.
Oui, car les humains ont cette fâcheuse habitude de transformer les bois en poubelles.
Pots de peinture, briques, tôles, meubles incomplets. Ils se mirent au travail dans le plus grand secret et la maison fut construite dans la clairière.
Et la joie de la surprise pour Oursonne. C'était ravissant, lumineux, charmant. Et puis elle ramassa des feuilles, coquilles, plumes, se lança dans des collections pour embellir la maison.
Elle semblait heureuse, mais pas son ourson. Elle n'avait plus de moment pour jouer avec lui.
Mais oui, elle s'inquiétait de la fragilité de ses objets, de la jalousie possible, et les trois plantigrades n'osaient plus bouger dans leur nouveau foyer ainsi aménagé. Et là, la vie se durcit. Ours dut se résoudre à partir, ne reconnaissant plus Oursonne ni sa vie.
Bon débarras, toi et tes grosses pattes n'ont qu'à retourner dans la grotte où il n'y a rien à casser.
Ourson était désespéré. Il sentait les tensions et il se disait que la vie des ours n'est pas de collectionner des objets. Un jour, une tempête emporta tout, objets, maison. Dame Ours, hébétée au milieu des débris, était indemne. Et...
Comment te sens-tu, maman Ours?
Et contre toute attente, elle dit...
Merveilleusement bien. Je suis libre, délivré de toutes ces choses, de ces objets qu'on a peur de perdre.
Donc un livre sensible, dessiné à l'ordinateur avec une précision d'entomologiste, un réalisme poétique, une angoisse matérielle qui disparaît et un retour à l'essentiel, les rapports entre les êtres et des ours qui au final restent des ours.
Et hop, retour en famille, en boule tous les trois dans la tanière.
La maison de l'ours et tout ce qu'elle contient de Émilie Vast à partir de 5 ans, c'est aux éditions Mémo. Le Rouge à lèvres, signé Laura Docril et Maria Caripidou, aux éditions Talent Haut, à partir de 4 ans. Alors là, la maison est bien calme aujourd'hui. Avec son chat, un petit garçon cherche de la distraction. Et ses yeux se posent sur un objet intéressant.
Oh, le rouge à lèvres hors de prix de maman.
Quel drôle de truc que de se mettre du rouge à lèvres. Ah, s'il essayait pour voir.
Devant le miroir, j'ai fait comme maman, un O avec la bouche. Et j'ai étalé le rouge à lèvres en faisant bien attention de ne pas dépasser.
Le résultat est très réussi.
Sans me vanter, ça m'allait vraiment bien.
Et peut-être qu'un peu de rouge à lèvres irait bien au mur aussi. Eh oui, après tout, c'est un super crayon. Allez, c'est parti pour une promenade cosmétique dans toute la maison.
En chemin, j'ai gribouillé, barbouillé, dessiné, griffonné et tout ce qui rime en « et ».
Aucune pièce n'est épargnée par l'imagination hyperactive de notre héros.
J'ai dessiné un hérisson, une chaussure, une robe à froufrou, un épi de maïs, un gant de boxe.
C'est probablement le plus beau jour de la vie de l'artiste en herbe. Mais il revient vite sur terre lorsqu'il entend des bruits de pas.
Et j'ai vite jeté le rouge à lèvres sur le canapé et j'ai pris un air innocent.
Trop tard, il est temps de nettoyer toutes ces bêtises. Enfin, pas la peine d'enlever le rouge à lèvres absolument partout. Hein.
Faut dire, ça me va tellement bien.
Alors la littérature jeunesse, vous savez, c'est le lieu propice pour laisser s'exprimer les bêtises des enfants. Et le héros y excelle avec une sympathie irrésistible. Car le livre s'amuse de la fascination ordinaire des enfants pour le maquillage, pour faire naître un récit extravagant comme une concrétisation de la bêtise idéale. Espiègle et coquet, le jeune héros charme alors tout autant par son air candide, sa fibre artistique et son humour, que par sa liberté et le pied de nez qui l'oppose aux stéréotypes de genre. Le rouge à lèvres aux éditions Talents Hauts, c'est à partir de 4 ans. Merci à Xavier Pestulgia pour ses réalisations, à Lucie Cosmala, Eric Oswald de Nichessou. Bah, nous vous souhaitons de belles lectures.
Et on clique à la page de L'Atelier Mon Petit Loup sur franceinter.fr pour retrouver les références des livres cités. Je suis toujours avec Anne Soupa et Didier Decoin, deux spécialistes de la Bible. Et j'ai à présent une dernière question à vous poser. C'est une question rituelle dans Barbatruc. J'aimerais savoir quelle est l'odeur de votre enfance, Didier Decoin.
Oh, écoutez, c'est une odeur que je ne suis pas certain que tout le monde immédiatement se la mette dans les narines. Mon père était cinéaste, c'était metteur en scène. Et à l'époque, on tournait rarement en extérieur, en décor naturel, on tournait en studio. On reconstituait une ville en studio, etc. Et cette ville en studio, enfin, tout ce, les décors étaient en bois blanc. Mmh. Et ça dégageait une odeur extrêmement résineuse. Et moi, j'allais tous les jeudis au studio pour voir travailler papa, et parce que c'était follement amusant. Et c'était mon jour, c'était mes meilleurs moments de la semaine. Et donc, dès que la porte du studio s'ouvrait, cette odeur m'arrivait, cette bouffée de sapin résineux, comme ça m'arrivait. Aujourd'hui encore, quand je passe dans une forêt et qu'il y a un peu de résine sur un tronc de sapin, ça me rappelle mon enfance.
Et ça sent le cinéma dans la forêt.
Ça sent le cinéma, ça sent le studio de prise de vue.
Et vous, Anne Soupa, quelle est l'odeur de votre enfance?
Ah, c'est une odeur un petit peu nostalgique, parce que l'enfance, c'est parti pour toujours. C'est l'odeur des narcisses, l'odeur des champs de narcisses. Je vivais au Maroc, enfant, et... Dès la fin février, il y avait des narcisses dans les champs, plein de narcisses dans les champs. Et j'ai de souvenirs très forts de cette odeur très forte, des brassées de narcisses qu'on allait ramasser. Et le narcisse, c'est une fleur qui a une tige très raide, qui se tient d'elle-même. Puis tout d'un coup, la corolle qui se penche. Bon, et les narcisses se mettaient très bien en bouquet. Et j'adorais faire des bouquets de narcisses. Ça se plaçait bien. Ma petite main serrait bien le bouquet de narcisses et ça se posait bien dans un vase en rentrant à la maison. C'était parfait. Et aujourd'hui, l'odeur des narcisses, c'est toute mon enfance qui revient.
Mais quelles sont jolies les odeurs de la semaine. On les met dans un bocal. Les narcisses voilà. D'Anne Soupa et les décors du studio de cinéma du papa de Didier Decoin.
Bois blanc.
Merci beaucoup à tous les deux. Judas, le coupable idéal d'Anne Soupa est à lire chez Albin Michel, tout comme votre livre le plus récent, Pour l'amour de Dieu, récit des coulisses de votre candidature à l'archevêché de Lyon. Je recommande également le dictionnaire amoureux de la Bible de Didier Decoin chez Plomb. Bonne journée et à
bientôt.
Bonne
journée aussi.
Merci et bravo aux petits-enfants qu'on a entendus.
Oui, ça c'est sûr. Bravo à la reporter également, Caroline Pommès.
Bravo.
Cette série d'émissions spéciales autour des religions va se poursuivre au fil de l'année. Dans 2 semaines, nous consacrons un épisode de Barbatruc au Coran expliqué aux enfants. Et entre-temps, nous parlons aussi toujours de littérature jeunesse. La semaine prochaine, ce sera Les Malheurs de Sophie. L'œil du tigre est à suivre. Après le journal de 18h, Philippe Collin s'intéresse aux courses hippiques cette semaine, une émission sur le Grand Prix d'Amérique.